Merci d'être venu ce soir. On est très heureux de vous recevoir. En plus, vous êtes un écrivain assez rare dans les librairies. Donc, vous avez vécu dans le sud-ouest pendant longtemps et vous vivez encore à Biarritz, si je ne m'abuse.
Entre les deux,
entre Paris et Biarritz. Et là, vous publiez votre 26e roman, je crois, hein, c'est ça ? Vous n'avez pas compté. Chérie, chérie, chez Gallimard, après de nombreux succès, notamment 37 de le matin, et O, il y a 3 ans, qui avait obtenu le prix Interallié en 2012. Et donc ce roman, Chérie, chérie, c'est l'histoire d'un écrivain fauché, qui est également critique littéraire, à la dent dure, qui s'appelle Denis, et qui, pour arrondir ses fins de mois, mais aussi avec un certain plaisir, danse dans un club de travestis pendant la nuit, sous le nom de Denise. Alors sa femme n'y voit aucun inconvénient, mais son beau-père, qui est légèrement psychopathe, trouve ça vraiment dégradant. Pour la peine, il l'entraîne dans une combine qu'il trouve plus honorable et qui pourtant paraît extrêmement douteuse. Mais je ne vous en dis pas plus. C'est une histoire vraiment prenante avec une galerie de portraits mémorables et le tout servi par un style très travaillé. On aura l'occasion d'en parler. Donc le héros est un écrivain et il tient ses propos, page 152, que je vais vous lire. Je reviens d'une radio où un auteur m'a demandé ce que je fabriquais avec mes changements de temps intempestifs et où j'ai dû expliquer que ce choix provoquait une rupture de focale instantanée qui recomposait le rythme d'ensemble. Je n'aime pas faire ça, expliquer. Mais ce n'est pas facile d'avouer que l'on ne sait pas toujours pourquoi l'on fait les choses et que l'on obéit à une force inconnue dont on reste l'esclave. Est-ce qu'en tant qu'écrivain, vous vous sentez solidaire de ces propos ?
S'il est dit avec un petit sourire, oui. Je suis toujours... J'aime pas être très sérieux, parce que je trouve que quand on est trop sérieux, les choses se passent moins bien. Les messages, quand il y a éventuellement un message, se passent moins bien. Donc j'essaye toujours... Mais ça, c'est les Américains qui m'ont donné ce goût de ce qu'ils appellent « entertainment ». C'est-à-dire que vous pouvez faire du divertissement et aborder tous les grands problèmes existentiels que vous voulez. C'est pas le problème n'est pas là. Donc je pensais, et je pense toujours d'ailleurs, qu'il vaut mieux faire les choses en douceur et en les proposant sur un ton un peu léger, qu'éventuellement le lecteur est plus sensible à ce que vous essayez de faire passer. Donc c'est cette idée. Quand je vous entendais lire, j'étais un petit peu gêné d'entendre ce côté qui peut être dit avec beaucoup d'assurance et beaucoup de... Primo, d'abord, c'est un personnage qui dit ça. Je ne vais pas non plus me cacher derrière, parce que c'est vrai que c'est à chaque fois des parties de moi-même, des facettes de mon propre... J'allais dire mon personnage, on est tous des personnages, c'est pour ça en même temps que ce qui m'a un peu amusé aussi dans l'écriture de ce roman, c'est que c'était un personnage qui n'avait pas deux, mais trois identités différentes. Et c'est toujours quelque chose de récurrent dans mes livres, de savoir un peu qui on est. Et je trouve que c'est plus intéressant quand on est à la fois un écrivain, quelqu'un qui danse dans un cabaret avec des barésies la nuit et qui en même temps a un rapport un peu particulier avec son beau-père qui est un mafieux. Mais je pense que c'est là où en même temps, tout en s'amusant, on peut éventuellement aborder des choses qui me semblent plus intéressantes. Mais je suis pas un philosophe, ni un penseur, ni un psychologue, je suis simplement un écrivain, j'essaye de m'occuper de la langue surtout, c'est pour ça que Antoine Gallimard est toujours en train de me dire « mais ne dis pas ça quand je dis que les histoires, c'est pas ce qui m'intéresse au premier chef. » Non, c'est pas ce qui m'intéresse au premier chef. Céline disait « si vous voulez des histoires, vous avez qu'à acheter les journaux. » Donc je me donne pas trop de mal. Je me donne beaucoup de mal pour écrire, mais pas pour mettre des histoires en place. Bon, voilà, c'est un livre, oui, c'est peut-être le 26e, mais j'avance quelque part, pas au niveau des histoires, mais au niveau de la langue. J'essaye toujours d'avancer, de voir... comment on peut faire que cet outil, ce matériau dont on se sert tous pour communiquer, comment l'affiner, comment le rendre plus intéressant, plus profond, plus nourrissant, quelque part. Donc c'est plutôt le style qui m'intéresse, c'est la langue.
Alors c'est ce que j'allais dire, c'est que souvent dans vos interviews, vous mettez en avant le style, mais est-ce que le style, c'est pas beaucoup plus difficile d'en parler que de l'histoire ? Parce que l'histoire, c'est assez facile dans les interviews. Ce n'est pas une question rhétorique, hein, c'est une vraie question.
Bah, c'est très, très compliqué de parler de la langue. Je comprends pourquoi tous les écrivains parlent de l'histoire qu'il y a dans les livres. Parce que C'est compliqué. C'est, j'ai toujours trouvé, par exemple, que dans la littérature française, un peu moins maintenant, parce qu'il y a des nouveaux visages qui sont venus occuper un petit peu le devant de la scène littéraire, qui sont des gens plus, entre guillemets, modernes. C'est-à-dire qu'avant, je trouvais que les dialogues n'étaient pas très, très bien écrits ou pas très bien utilisés en français. Comment il fallait un moment peut-être prendre ça à bras-le-corps et puis voir ce qu'on pouvait faire avec. Je trouve que je vois pas non plus quel peut être le but d'un écrivain si c'est pas celui de travailler la langue. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Ça peut pas être d'écrire des histoires. Écrire des histoires, tout le monde peut écrire des histoires. Tout le monde a des histoires à raconter. Tout le monde. C'est comment vous allez les dire, quel instrument vous allez employer pour les dire. Donc c'est la langue qui est intéressante. Et je pense que si aujourd'hui, après une trentaine d'années d'écriture, si ça commence toujours non seulement à m'intéresser, mais à m'exciter de plus en plus, c'est parce qu'il y a la langue qu'il faut travailler. La langue, elle n'est pas figée. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques critiques à Paris qui pensent que la langue s'est arrêtée à la fin du 19e et qu'on ne pourra jamais dépasser ça. C'est un peu absurde, à mon avis. Mais je ne comprends pas qu'on puisse... ne pas prétendre que c'est au premier chef la langue qui est l'objet principal du travail d'un écrivain. Je ne comprends pas ça. Mais en même temps, c'est celle qui donne le plus de bonheur et qui fait que je crois que je suis de plus en plus excité à l'écriture d'un nouveau livre que les premiers. Je suis de plus en plus fasciné par ça, de voir ce qu'on peut en tirer, ce qui peut... Voilà, essayer de. Je ne crois pas qu'on soit en même temps à un moment de grande révolution comme Céline, par exemple, qui a tout cassé, qui a tout recommencé. Je crois qu'on est plutôt dans une période d'adaptation, mais encore faut-il adapter. Donc il ne faut peut-être pas s'attendre à des grands bouleversements, mais j'ai toujours cette image que je répète toujours de la station de radio. C'est-à-dire que si vous cherchez une station de radio, si vous êtes en plein dessus, le son est pur. Si vous êtes avant, ça crache. Si vous êtes après, ça crache. Mais une fois que vous avez trouvé le son pur, l'idée, ce n'est pas de partir en vacances pendant 6 mois et de revenir en disant que rien n'a bougé. Les choses ont encore bougé tout doucement. Donc il faut être tout le temps en train d'écrire et tout le temps en train de chercher qu'est-ce qui est le mieux, quel est le rythme le plus intéressant, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous êtes en adéquation avec vous-même, mais aussi avec un lecteur potentiel. Donc c'est à ce niveau-là que ça se passe. Je n'ai jamais pensé que c'était au niveau des histoires, parce que tous les écrivains qui m'ont bouleversé quand j'étais plus jeune. Il y en a un peu moins aujourd'hui, mais on pourra parler après pourquoi le fait que quand j'avais 20 ans, j'étais plus sensible à la découverte. Je découvre moins de choses qui me bouleversent aujourd'hui. Mais ça a toujours été des stylistes, ça a toujours été des gens qui me parlaient et pas qui me racontaient. Donc voilà, mon travail, donc c'est un travail sur la langue.
Mais néanmoins, même si l'histoire est secondaire... Elle n'est pas inexistante, on n'est pas du tout dans le nouveau roman, dans une recherche purement verbale.
Non, c'est pour ça que je parlais d'entertainment. Je pense que le divertissement est drôle dans la mesure où, encore une fois, tous les grands problèmes, tout le monde regarde des séries aujourd'hui. Et tout à l'heure, on parlait de Breaking Bad, par exemple, qui est une parmi d'autres, mais qui sont de très très bonnes séries. Tous les grands problèmes sont abordés. Dans Six Feet Under, dans Les Sopranos, les problèmes d'identité, les problèmes de filiation, les problèmes... Voilà, qu'est-ce que c'est que la trahison, qu'est-ce que c'est... Tous ces problèmes-là sont abordés, donc pourquoi le faire? Moi, je le fais à ma manière, et c'est ma manière, c'est pas la manière que tout le monde doit adopter, mais c'est la mienne.
Alors, vous avez dit dans une interview que ce qui vous faisait démarrer dans un roman, c'est la première phrase. Alors après, il y a une espèce de réaction en chaîne, une fois que vous avez trouvé ça?
Je sais pas si on peut appeler ça une réaction en chaîne, c'est... Je sais que si je m'assois pendant une semaine en essayant de me dire, voilà, j'ai essayé d'avoir une histoire en tête, il n'y a rien, je n'y arrive pas, il n'y a rien qui vient. Simplement, il faut que j'écrive une première phrase et que cette phrase-là m'emporte quelque part ou me demande, m'invite à réfléchir ou à voir comment ça va se dérouler, comment elle va s'articuler avec une autre. Et d'un seul coup, le paysage du roman s'ouvre devant vous. C'est un petit peu comme... Vous êtes dans une grotte, alors vous éclairez un endroit, un autre, tout ça, et vous n'allez jamais avoir la totalité, mais à force d'éclairer plein d'endroits, vous allez avoir à peu près une espèce d'image de l'histoire ou du lieu que vous avez envie de décrire. Donc chaque phrase amène un petit peu son éclairage. je suis toujours surpris des fois de la direction que prennent les romans. Quand j'ai écrit on en parlait tout à l'heure, parce que bah, justement, vous savez qu'il y a Paul Verhoeven qui tourne depuis 2 jours haut avec Isabelle Huppert, et on en a longuement parlé ensemble, et il me disait, mais le problème, ça va être comment rendre... Mais quand j'ai commencé à écrire, je ne savais pas que c'était une femme qui allait parler. C'était simplement, je me souviens que c'était la première phrase parlait de quelqu'un qui disait qu'il s'était éraflé la joue. Et j'écris ça, je dis tiens, c'est bizarre. Je trouvais que le terme ne convenait pas forcément à un homme. Mais bon, c'était une impression que j'ai eue comme ça en écrivant. Et je me suis dit tiens, si ce n'est pas un homme, qu'est-ce que c'est ? C'est une femme, ah bon ? Et qu'est-ce qu'elle fait par terre ? Et ça continue comme ça. Et c'est comment les choses s'articulent, comment on met... C'est un peu à chaque fois comme un peu une exposition. Vous savez, si vous exposez mal des peintures, même si elles sont géniales, il y a des choses qui s'éteignent, il y a des choses qui se mettent en valeur. Donc, quand vous avez saisi la première phrase, il faut faire que... Déjà, il faut que vous soyez très content de votre première phrase et voir comment, si vous en mettez une autre à côté, comment vous n'allez pas tout casser ou tout foutre en l'air. C'est comment, d'un seul coup, au contraire, vous allez les mettre en valeur. Et ça continue, et ça continue, et c'est... Après, on est dedans. Et après, il y a un moment un peu particulier que connaissent les écrivains. C'est-à-dire que je pense qu'il y a comme une espèce de basculement dans le roman. À un moment, vous basculez dedans. C'est pas immédiat. Ça prend souvent, je dirais, une dizaine de pages. Vous commencez vraiment à voir où vous allez. Et comme j'écris une page par jour, ça veut dire que pendant une dizaine ou une douzaine de jours... Je suis dans une espèce de situation un peu particulière qu'il faut que que j'attende ce basculement, que je commence à vraiment intégrer les personnages, l'esprit des... et sentir aussi la coloration du roman, sentir la mélodie du roman, sentir le rythme du roman. Et ça vient pas tout de suite. Et comme j'ai toujours pensé que c'était en même temps, c'est pas l'histoire qui amène le style, c'est l'inverse, c'est le style qui amène l'histoire. L'histoire se... C'est comme je suis un homme, donc je peux parler d'une femme qui s'abandonne à vous. Et ben, c'est un peu ce qui se passe à un moment. C'est-à-dire que le roman s'abandonne à l'auteur, mais ça ne se fait pas tout de suite. Voilà.
Mais alors, si vous écrivez donc un peu à l'aveuglette, est-ce qu'il y a...
Non, parce que vous dites... jeune encore, ces garçons.
Non, parce que vous dites dans le noir, vous dites... voilà. Est-ce que vous avez pour autant, dans Chéri Chéri, une image qui a présidé à l'écriture, une scène
La première phrase de Chéri Chéri, elle est tellement simple et bête que elle s'est imposée. C'est-à-dire, le jour où on m'appelait Denis, le soir où on m'appelait Denise, bon, ça va, je commence un peu à voir ce que ça peut donner. L'idée, c'est que j'avais deux personnages et que l'histoire a voulu que deux personnages ne suffisaient pas. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui a 3 têtes. Mais je pense que c'est un petit peu... c'est une bonne manière... Je pensais, là, j'ai fait au Louvre, il y avait une exposition qui s'intitulait « Voyage », et je disais que le voyage, pour moi, ça n'a rien à voir avec le tourisme. Le voyage, pour moi, c'est être là où on ne doit pas être, c'est avoir fait un pas de côté, c'est être en déplacement, être mobile. Et ça, je pense que c'est intéressant quand, dans un roman, vous n'avez pas non plus des choses qui sont trop... J'ai l'impression que le plan dans un roman, c'est un peu comme... c'est quelque chose qui est figé. Enfin, pour moi, je le reçois comme ça. Mais que c'est quelque chose de figé. C'est après, on prend un chausse-pied, puis on essaye de tout mettre pour que ça colle dedans. Moi, j'essaye de... Mes romans, souvent, ressemblent à une boîte. C'est dans une boîte, je mets plein de choses. Je mets quelques personnages. Je mets tout ce qu'on peut mettre depuis Shakespeare, à savoir la trahison, la passion, l'amour, ça. Je les mets dans une boîte et... Je laisse mes personnages et l'histoire faire un petit peu ce qu'ils veulent à l'intérieur de cette boîte. Mais je contrôle la dimension de ma boîte. Je ne les laisse pas sortir. Ou alors, si je les laisse sortir, je garde quand même les personnages avec une laisse. Mais je veux qu'ils m'étonnent. Je veux être bien avec eux. Je veux les découvrir. Je n'ai pas envie d'être devant quelqu'un que je connais de A à Z. Ça ne m'amuse pas du tout. Non seulement ça ne m'amuse pas, mais je pense que ça appauvrirait éventuellement cette chose qui fait que quand vous rajoutez une phrase qui peut à un moment donner un trait psychologique particulier au personnage, il faut que ça, faut pas vraiment que ça vienne de vous, faut que ça vienne de la langue, faut que ça vienne du personnage, c'est une espèce de mélange comme ça. Je travaille avec mes personnages quand j'écris un roman, je travaille avec mon oreille, j'en ai plus qu'une, mais j'essaye de m'en servir, j'essaye d'écouter, j'essaye de sentir. cette idée qu'à un moment, peut-être un roman, c'est démarrer par une première phrase, c'est aussi comme prendre un diapason, vous faites sonner, vous avez une note et vous essayez de la tenir jusqu'au bout. C'est un peu ça, j'essaye de fonctionner avec des outils qui me sont propres. Je pense que pour des tas d'écrivains, si je vous disais prenez un diapason pour votre prochain roman, vous allez me dire, mais il est complètement fou, lui. Mais c'est ça un peu quand même, c'est cette idée de tenir une... Il y a de la musique tout le temps. Si vous écoutez un opéra, c'est rare qu'il y ait un blanc. Il y a quelque chose qui se passe. C'est l'histoire de tenir la note, je crois que c'est... J'aime bien cette idée.
Est-ce que... Parce que le narrateur de Chérie, Chérie est donc un écrivain. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus difficile encore dans le fait d'avoir un écrivain pour personnage? Parce que pour la plupart, quand ils ne dansent pas en tutu la nuit... Ils sont assez monotones.
Il n'est pas en tutu, hein, il est en barésine.
Non, je sais.
C'est pas pareil. Tutu, c'est pas intéressant. Est-ce que vous aviez fini votre question?
Oui, je disais...
Est-ce besoin qu'il y a pas... de boire entre les deux.
Non, j'ai fini.
Alors, c'était quoi la question?
Est-ce que c'est pas plus difficile que, je sais pas, un personnage qui serait clown? Parce qu'il y a quelque chose d'assez monotone dans une vie d'écrivain, en général.
C'est abominable, une vie d'écrivain. Ouais. C'est la monotonie même. Non, je me sers des... pour deux raisons. Déjà, parce que c'est certainement la vie que je connais la mieux, la vie d'un écrivain. Et en même temps, j'ai toujours des choses à dire là-dessus, parce que c'est toute ma vie, l'écriture, quand même. Donc, comme ce n'est pas les histoires, à chaque fois, mes écrivains ont des choses à dire sur le rapport à la langue, comment on vit quand on est écrivain, comment on s'y prend, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui est agréable. Et j'imagine qu'à chaque fois, quand on... focaliser sur les problèmes que rencontre un écrivain dans son travail, c'est en même temps devenir un peu, quelque part, si on s'y prend bien, un petit peu universel. Je pense que je pourrais, si j'étais pilote de ligne et que je connais bien mon métier et que j'éprouve encore du plaisir à piloter un avion et que je vous parle de tous les problèmes que je rencontre en pilotant mon avion, peut-être qu'à un moment, ça va devenir quelque chose qui est accessible au plus grand nombre. Donc oui, la vie d'écrivain m'amuse. Ça m'amuse d'être écrivain parce qu'en même temps, je ne sais pas ce que c'est que la vie de bureau. Moi, j'ai tout le temps... J'ai fait un petit peu de travaux comme ça à droite à gauche, mais j'ai commencé à écrire très très vite, donc je n'ai jamais pointé, je ne sais pas ce que c'est qu'un travail de bureau. Je lis des écrivains pour comprendre ce que c'est qu'un travail de bureau, je ne sais pas ce que c'est. Donc la vie d'un écrivain, c'est un petit peu ce que je connais. Et en même temps, les problèmes que je rencontre, c'est ceux qui m'excitent, c'est ceux qui m'intéressent, donc j'ai envie de le faire partager. Mais quand j'explique par exemple que... pourquoi commencer toujours, souvent un livre par chapitre premier? Pourquoi commencer avec un petit blanc? Pourquoi, quand on commence un dialogue, il faut des petits guillemets? Il faut des choses. Si ça sert, il faut le garder. Si ça sert à rien, il faut l'enlever. Les petits blancs au départ des paragraphes, même visuellement, me gênent. Donc je les ai enlevés. J'ai enlevé les points d'interrogation et les points d'exclamation parce que j'ai trouvé que, par exemple, sur une phrase qui a déjà l'inversion « Où est-il ?», il y a déjà le point d'interrogation qui est là, même s'il est caché. Donc, il ne m'intéresse pas. Ça devient intéressant pour moi si je mets un point après « Où est-il ?» Parce qu'il y a différentes manières de dire « Où est-il ?» Est-ce que c'est une question qui attend une réponse? Est-ce que c'est une question en l'air? Quand j'étais plus jeune, par exemple, je mettais point d'interrogation et point d'exclamation pour donner cette idée que c'était une interrogation qui n'était pas une vraie interrogation, qui était en même temps une affirmation. Et puis ça m'embrouillait, la vue, visuellement, ça m'embrouillait. Je croyais que c'était pas beau. Et donc j'ai mis un point et je m'aperçois simplement que maintenant, quand je lis certains passages où il n'y a plus de points d'interrogation et plus de points d'exclamation, ça me donne une autre musicalité qui, là, m'intéresse. D'un seul coup, ça sonne autrement. Et si c'est intéressant, servons-nous-en, sinon ça ne sert à rien. Pourquoi je ne mets pas, je ne sais plus, les guillemets, les choses comme ça, c'est les petits tirets avant de commencer un dialogue pour... On n'est pas des imbéciles quand même. Moi, je n'ai pas besoin, si l'auteur est assez malin et intelligent, je n'ai pas besoin qu'il me mette un petit trait pour me faire comprendre que c'est un dialogue. Je ne sais pas, c'est... Déblayons, alors regardons, ne nous laissons pas, je ne sais pas, aveugles... Enfin, quand je dis vous, nous, non, c'est moi, mais... Ça m'énerve, ce genre de choses. Je n'ai pas envie de ça. Et d'un seul coup, la page prend, même visuellement, une autre forme qui m'intéresse. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais au moins, je cherche quelque chose qui me semble utile.
Oui, d'ailleurs, je crois me souvenir que vous aviez sinon créé, du moins apporté un signe typographique dans la littérature avec O. C'est ce qu'avait dit, je me souviens, pas mal de journalistes, avec cet index qui montre le texte.
C'était parce que je vis tous les jours, et vous et nous, on vit tous avec des indications qui ne sont pas tout le temps des indications avec l'alphabet. On vous dit d'aller par là, alors on vous met juste un petit doigt comme ça. Moi, je me suis dit, tiens, c'est plutôt drôle de commencer les paragraphes en disant, ben voilà, vous voulez des signes, ben, je vais vous montrer, avec ce signe-là, ça veut dire le paragraphe commence. Et visuellement, ça m'amusait en même temps. Ça m'amusait d'avoir des gens de chez Gallimard qui me disaient, mais c'est quoi ce truc-là, pourquoi tu fais ça? Je disais, je fais ça parce que ça m'amuse et que ça ne fait pas de mal à la littérature. Il n'y a pas grand-chose qui fait du mal à la littérature. Quand je parle des Sopranos, par exemple, il y a 3 jours, on parlait de cette série, Les Sopranos, et je me souviens qu'il y avait une scène à un moment qui m'avait assez... J'avais trouvé ça intéressant et bien fait. Ils se retrouvent tous, c'est des seconds couteaux qui sont dans une camionnette, et d'un seul coup, tout l'épisode se passe dans une camionnette la nuit, et moi, pour embêter tout le monde, je disais, mais c'est du Beckett. Et ça ne fait pas du mal à Beckett de dire ça. Beckett reste toujours un immense écrivain. Donc amusons-nous. Céline disait, mais mes contemporains sont lourds. Donc essayons d'être un peu légers. Ça ne fait pas de mal à personne. Et ça ne fait sûrement pas de mal à la littérature.
Alors on a parlé donc un peu de Breaking Bad, un peu des Sopranos. Est-ce que ces séries, par leur pouvoir d'immersion, elles lancent un nouveau défi au roman ?
Virginie Despentes disait il n'y a pas longtemps, c'est les séries qui nous volent des lecteurs en ce moment. Donc c'est parce que c'est un phénomène quand même intéressant. D'un seul coup, ça a développé quand même chez les cinéastes, certains cinéastes américains, mais pas des moindres, une nouvelle manière de travailler la fiction, même si ça ne révolutionne rien, c'est quand même une autre manière de l'aborder. Cette espèce de chose un peu éclatée, il n'y a pas vraiment un centre, ça me semble intéressant. Je me suis dit, tiens, essayons. Il se trouve que je pensais même que d'un seul coup, au moins ces nouveaux écrivains, enfin de cette nouvelle génération, les Virginie Despentes, les Houellebecq et tous ces gens-là, ça pourrait les amuser, que d'un seul coup... Parce que l'idée, c'était, est-ce que d'un seul coup, on va plus écrire? Parce qu'il y a des gens qui... Le problème qu'on a, c'est que ces séries américaines, enfin celles qu'on a citées, et qui font partie des bonnes, vous avez des gens qui écrivent bien... Et vous avez des gens qui savent filmer en même temps, qui se demandent où placer la caméra, et ceux qui écrivent les dialogues essayent de faire des bons dialogues. Donc, si vous vous trouvez d'un seul coup devant quelque chose de nouveau et qui a plein de qualités, et qui fait qu'aujourd'hui, avec nos vies trépidantes, on a de moins en moins de temps de se plonger dans un roman de 1000 pages, bah, ces gens-là prennent une place parce qu'on n'a pas su la défendre. Moi, je trouve qu'on a d'autres armes que les cinéastes et qu'il faut s'en servir et qu'il n'y a pas de raison. Si vous voulez, mon idée au départ, c'est si le lecteur veut des séries, pourquoi je ne donnerais pas des séries? Du moment qu'il me laisse faire cette série comme je l'entends et l'écrire comme je l'entends. De toute façon, je suis j'essaye, mais j'y arrive assez souvent, d'être mon plus terrible critique. C'est-à-dire qu'une fois que ça a passé ce stade-là... où je suis à la fois l'écrivain et le lecteur, une fois que ça a passé ce stade-là, je peux tout assumer et je ne crains plus rien au niveau de la manière dont ça sera reçu. C'est-à-dire que j'ai écrit du mieux que je pouvais la chose la plus agréable que je pouvais faire au moment où je l'ai faite. Ça me suffit amplement, ça nourrit ma vie d'écrivain et le progrès que je pense, même si je suis le seul à le penser, que j'arrive à mettre en place en écrivant, ben, me suffit amplement. Et je suis assez heureux comme ça. Mais en même temps, quand j'avais 20 ans ou 30 ans, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule manière d'écrire, c'était la mienne. Aujourd'hui, j'ai changé un peu, j'ai le double en âge. Je me dis que non, il y a plusieurs littératures, il y a plusieurs manières de faire, mais je ne pense pas que je varierais dans la manière dont je m'y prends pour écrire des livres. Mais en même temps, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne sais pas.
Mais alors, ce qui vous semble plutôt, c'est que... le roman doit aller marcher sur les plates-bandes de la série plutôt que de se retrancher dans une espèce de champ littéraire.
Je ne suis pas sûr que le roman doive marcher sur les plates-bandes de la série. Je pense que ça peut être quelque chose, une exploration. On regarde, j'en écris une, je ne pense pas que je vais en écrire une autre parce que c'était long, que ça n'a peut-être pas eu le public qui aurait éventuellement pu être celui d'une série. Donc c'était un coup dans l'eau. Mais bon, je l'ai fait et je pense qu'il fallait qu'il y en ait un qui le fasse. Mais je ne serai certainement pas le dernier. Il y en a d'autres. La Virginie, par exemple, j'en parlais avec elle. Parce qu'on a un problème quand même en France. Hein. Virginie Despentes me disait, normalement, le livre qu'elle va sortir là, c'était quelque chose qui faisait 1000 ou 1200 pages. Je disais tout à l'heure à mon collègue là, que c'était pratiquement impossible pour un écrivain français aujourd'hui de rester 5 ans, 6 ans ou 7 ans sur un roman comme fait Donatarte ou les choses dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pratiquement plus de journaux qui achètent des nouvelles, il n'y a pas d'écrivains résidents dans les universités en France, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Donc financièrement, c'est impossible pour un écrivain français de tenir 7 ans et de vivre que de ça. Donc voilà pourquoi on n'écrit pas des gros romans. Parce que alors, Virginie, donc Grasset lui a dit, on va couper, on va déjà vendre une première partie, la deuxième, on la publiera dans 6 mois, et dépêche-toi d'écrire la fin pour que ça fasse... Mais c'est parce que c'est des problèmes idiots de comment vivre. Comment vivre quand on est écrivain et qu'on n'a pas envie de se disperser dans un autre métier. Quand j'entends dispersion, c'est surtout au niveau de... le temps que vous faites, si vous avez un autre métier, vous ne le passez pas à écrire. Et moi, j'ai toujours trouvé très, très compliqué d'abandonner un roman pendant une semaine, 15 jours, ou de jeunes écrivains qui viennent me voir aujourd'hui, mais comment je peux faire... pour écrire un roman, j'aimerais bien, mais je peux travailler que le dimanche. Je dis, attendez, je sais pas quoi vous dire. Si vous travaillez que le dimanche, ça va vous poser un problème. Donc, le roman ne doit pas marcher sur les plates-bandes, mais on doit s'amuser un peu, on doit être léger, on doit essayer de voir si c'est intéressant ou pas. Y a des gens comme Scorsese, par exemple, ou d'autres aussi respectables, qui ont fait de la télévision. Si vous parlez de télévision aujourd'hui dans le milieu littéraire parisien français... On vous regarde avec des yeux un peu avec condescendance en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc vulgaire de la télé ?» Tout ça, c'est une absurdité totale. D'autant que, justement, ça vous donne un format différent. Il y a ces metteurs en scène-là se sont aperçus qu'à un moment, le cadre des deux heures un quart dans une salle de cinéma, ce n'était pas du tout la distance qui les intéressait, qu'ils avaient envie de 5 heures ou de 6 heures et que c'était, c'était les séries ou les mini-séries qui leur proposaient ce territoire. Et donc, on a des tas de complications et on vit dans un pays en plus où c'est beaucoup, c'est très difficile ici de changer beaucoup de choses dans la langue. Vous pensez, c'est la langue de Voltaire, la France, on touche pas. Il y a des gens qui sont là pour faire attention que vous fassiez pas de bêtises, mais c'est terrible. C'est pas comme ça qu'une langue est moderne et neuve et qu'en même temps c'est quelque chose qui doit servir à tous. Moi, j'écris pas. Oui, j'écris pour moi, parce que par obligation. Mais en même temps, je veux pas être un écrivain pour 100 lecteurs. Ça m'intéresse pas. Même s'ils sont tous à genoux devant moi, ça m'intéresse pas. Je veux écrire pour 1 million de lecteurs. Chose qui arrivera jamais. Mais l'idée, c'est ça, quand même. On vit dans une société et chacun doit faire son job. L'écrivain, il doit faire son job. Et le médecin, et l'avocat, et le juge, et le professeur, et le garagiste, et le boulanger. On doit tous faire notre travail. Et moi, mon travail, c'est de travailler quelque chose, une matière qui doit servir au plus grand nombre. Donc, sorti de là, je baigne dans une espèce de bonheur total, parce que j'ai l'impression en même temps que ça sert à quelque chose. Mais je ne suis pas le seul. Donc, Houellebecq sert à quelque chose, Virginie, Régis Geoffrey, tous ces gens qui essayent de bouger un peu les choses, ils servent à quelque chose.
Et quel regard vous portez sur les mutations du livre aujourd'hui, puisque votre personnage, qui encore une fois est un personnage, a une remarque un petit peu ironique sur le livre numérique à un moment.
On va avoir un grand problème avec le numérique parce que il y a bientôt des livres qui vont débarquer à 3 euros ou 4 euros ou 2 euros, les livres numériques. Or, en ce moment, les éditeurs, les livres numériques, ils vous les balancent plutôt à 12 ou 13 euros, ce qui est complètement absurde. Donc, ça va nous tomber dessus. Il commence à y avoir des sites où vous avez en pure player, vous pouvez avoir tout en numérique pour pas cher. Donc, si les éditeurs prennent pas ce virage, ça va être catastrophique. Mais bon, voilà, on ne peut pas les pousser. Moi, ça fait un an et demi que j'essaye de... Ça va certainement pas avoir lieu bientôt, mais que j'ai demandé à Antoine Gallimard de m'ouvrir un site. Je veux pouvoir montrer des images, je veux pouvoir... J'étais tout embêté tout à l'heure quand je disais que je donne des ateliers. Je ne donne pas des ateliers, mais je m'occupe d'ateliers d'écriture à Genève, à Paris, tout ça. Et je rencontre des gens incroyables que des éditeurs ne veulent pas publier. Mais je dis, si j'ai un site, comme ça ne coûte pas cher... Le numérique ne coûte pas cher, je pourrais proposer des pages qui m'intéressent, je pourrais proposer de la musique qui m'intéresse. J'avais fait, par exemple, il y a un moment, une nuit avec Pascal Clark sur France Inter, et il m'avait donné une liste des musiques ou des gens éventuellement que j'aurais pu inviter pour faire de la musique. Et en regardant la liste, je dis, mais il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. C'est de la musique qu'on entend tous les jours et qui, pour moi, n'a pas d'intérêt. Donc la musique qui a pour moi de l'intérêt, le format de ce genre de musique a du mal à trouver sa place dans les émissions de radio qui coupent au bout de 3 minutes. Donc peut-être qu'avec ces sites, je pourrais mettre des choses beaucoup plus conséquentes, plus longues, et de la musique, et des images, et des choses. Voilà. Je disais tout à l'heure que, par exemple, le site Gallimard est assez ennuyeux, mais il n'y a pas que Gallimard. Tous les sites des éditeurs en ce moment sont très ennuyeux. Vous avez la photo des écrivains, ils sont là, c'est à mourir d'ennui. Alors j'imagine un jeune qui ne lit pas trop et qui n'est pas trop attiré par la littérature, quand il tombe sur un site comme ça, il part en courant, il va voir ailleurs. Donc avec mon fils, on a mis quelque chose en place, voilà, avec un endroit, c'est le Walden Pond aux États-Unis, c'est là où Follow avait mis sa cabane, et le site, c'est vous rentrez dans une forêt qui est plutôt belle, et vous soulevez des cailloux, vous allez décrocher des choses, et il y a une musique qui se met en place, quand j'ai donné des cours, enfin je ne donne pas des cours, là j'ai rien dit, quand j'essaye d'accompagner des gens qui écrivent, j'ai eu l'année dernière, disons en gros, une centaine de personnes qui ont suivi ces ateliers. Il y en a cinq, c'est pour donner une idée de grandeur, qui m'ont complètement halluciné. J'ai dit, mais vous n'êtes pas publié, c'est pas possible, c'est génial ce que vous faites. Et qui ne trouvent pas d'éditeur. Et j'ai eu aussi, il y a quelques années, un éditeur que je ne vais pas nommer pour ne pas lui faire de tort. Il m'invite à dîner, il était venu me voir, j'habitais en Suisse à l'époque, qui venait me voir, qui m'invite dans un grand restaurant, on parle, je lui dis, alors vous avez lu des choses intéressantes ces derniers temps? Il me dit, oh là là, mais je viens de lire un truc, ça faisait 15 ans que je n'avais pas lu un truc aussi beau, et moi, naïvement, je lui dis, ah bah, c'est génial, on va avoir de la bonne lecture à la rentrée, et il me dit, non, je ne publie pas. Je lui dis, pourquoi vous ne publiez pas? Parce que ça ne va pas se vendre. Donc quand même, les sites qui ne coûtent pas cher, on pourra mettre ces gens, et on pourra faire que peut-être... il y aura assez de lecteurs pour que quelqu'un se décide à le publier. Et pour finir, ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur les 100 personnes, il y en avait 5 qui étaient incroyables écrivains. Voilà, donc il faut quand même un moment trouver les moyens pour que ça bouge un peu, parce que sinon, dans 20 ans, on va encore en être là. Hein. C'est terrible quand même. Mmh. Et pareil pour la musique. Les gens qui m'intéressent font des morceaux qui se déploient sur un temps plus long. Vous ne ferez pas passer dans une émission normale un morceau de 10 minutes à la radio. Mais si, pour vous faire plaisir, ils en passent une minute, ça ne rime à rien. Il faut prendre la chose. C'est comme si vous donniez 3 pages d'un roman, ça ne rime à rien du tout. Donc il faut se donner les espaces, il faut se donner les lieux. Et en même temps, voilà, il faut que ces sites existent. Et en ce moment, tous les éditeurs à Paris, et peut-être ailleurs, là, ils sont tous dans les starting blocks à se regarder qui commence, qui fait quoi, on y va, on n'y va pas. C'est terrible. Mais bon, c'est la vie, c'est la France.
Je vais lire un petit extrait qui me fait penser à ce que vous dites.
Essayez de pas trop le jouer, je sais pas.
Non, je fais pas ça. Alors ça, c'est le beau-père du narrateur, Denis, qui lui dit « Arrêtez, me rétorque-t-il sur un ton amer. Ne me prenez pas de haut, Denis. Vous croyez que vous m'impressionnez ? Vous croyez que ça me fait quelque chose de causer à un écrivain? Non, mais vous m'avez regardé. Surtout quand j'ai affaire à un mauvais payeur, et là, il n'y a plus d'écrivain qui tienne. Vous êtes un homme qui ne respecte pas ses engagements. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que vous êtes avant tout, mon petit vieux. Ce n'est pas très reluisant. Si vous n'étiez pas le mari de ma fille, le problème serait réglé depuis longtemps. Vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, l'écrivain est plus du tout admiré et la vie d'écrivain ne fait plus rêver personne?
Ben c'est dommage si la vie d'écrivain ne fait plus rêver personne. J'aime autant vous dire que c'est une superbe vie.
Je
ne
dis pas que c'est
même.
Bien ou pas, mais est-ce que vous trouvez que c'est vrai?
C'est vrai que si vous descendez dans les palaces, a priori, vous allez plutôt voir le russe qui a fait fortune dans le poulet congelé que des écrivains, ça c'est sûr. Mais si on... je sais pas, à l'époque de Fitzgerald, comme ça... Moi, je trouve que... Je n'ai pas d'orgueil particulier pour moi. Mais d'orgueil pour la qualité d'écrivain, oui. Je trouve que c'est pas normal que les palaces ou d'autres endroits qui sont fréquentés par des gens qui ont fait fortune dans je sais pas quoi, dans le poulet congelé ou quoi, je trouve que c'est pas normal que l'écrivain soit celui qui va être obligé de se payer un Formule 1 à la sortie de la ville. Mais bon, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Il y a des choses intéressantes à voir dans les palaces. Hein. Donc si on ne nous ouvre pas les portes des palaces, on va passer à côté de choses intéressantes quand même. Mais bon, c'est un exemple, mais je crois pas, non, il ne faut pas exagérer, je crois pas qu'en France, l'écrivain soit vraiment déconsidéré. Je crois que ça va pas trop mal quand même. Mmh.
Non, mais je pense à aux enfants aujourd'hui. Je veux dire, moi, quand j'étais petit, on avait encore pas mal de on était encore à se dire ah, j'aimerais bien être écrivain plus tard. Aujourd'hui, je sais pas si à cet âge-là, à 5 ans, à 6 ans, c'est un truc qui fait rêver, quoi.
Ah, je sais pas, c'est... il y a peut-être un truc qui va pas au niveau de l'éducation, je veux dire, faire comprendre aux... C'est difficile, hein, c'est difficile de faire comprendre à quelqu'un enfin, un jeune de 15, 16 ans, 17 ans, que la lit... Moi, j'ai compris à un moment parce que je crois que les plus grandes émotions, et je me rends compte aujourd'hui, et donc c'est une espèce de vérité, enfin, au moins pour moi, les plus grandes émotions dans ma vie, je les ai eues à travers la littérature. Pourtant, j'aime les femmes, j'aime la cuisine, j'aime le cinéma, j'aime tout ça, mais les choses qui m'ont le plus marqué, qui m'ont le plus bouleversé, ça vient de la littérature. Donc je me dis, mais comment on est assez bête pour ne pas faire passer ça ? J'étais pas non plus un élève, comme on peut caricaturer des fois, le type qui a avec ses lunettes, le premier de la classe et tout ça. Donc j'étais plutôt un lycéen et un étudiant normal, et j'ai été frappé, submergé par la littérature. Et c'était pas compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis tombé sur l'attrape-cœur de Salinger et je me suis dit, mais j'avais rien compris. Je savais pas que c'était ça, un livre. Et pourtant, Dieu sait si mes professeurs m'avaient fait lire des livres, ça. Et il y en a un moment qui fait que le déclic est là. Et à un moment, on devient vorace. On a envie de tout lire, on a envie de tout regarder, on a envie de pénétrer tous ces univers. Donc, non, si j'étais professeur, je leur dirais, mais vous êtes des idiots. En même temps, ils vont me dire, mais c'est toi l'idiot. Parce que s'il n'y a pas le déclic, c'est vrai que c'est un truc particulier, la littérature. Il y a un effort particulier à faire. C'est-à-dire que si vous voulez lire un livre, il faut d'abord peut-être prendre ce qu'on vous a donné comme argent de poche dans la semaine pour aller acheter un livre. Parce qu'ils sont relativement chers. Par rapport au cinéma ou par rapport au concert, c'est relativement cher. Donc faire comprendre que ces espèces de bouts de papier avec des mots, d'un seul coup, ça sera plus enrichissant, plus bouleversant, plus tout ce que vous voulez, comparé à un concert du dernier groupe de rock à la mode, c'est compliqué à faire comprendre. Mais il doit y avoir des moyens, puisque moi, ça m'est arrivé, et quand, encore une fois, je n'étais pas spécialement prédisposé à tomber à genoux devant un livre. Ben, il se trouve que c'est arrivé. Et je sais, par exemple, j'ai donc 3 enfants, que ça n'a pas toujours été simple, mais que d'un seul coup, oui, ils sont devenus des grands lecteurs, pas parce que je les ai obligés, mais je les ai peut-être un petit peu aidés en voyant où ça bloquait, ce qui n'allait pas, et voilà. Et chacun devrait faire ça avec ses enfants. Je ne sais pas, si vous êtes tous ici, c'est que vous avez quelque part un intérêt avec la littérature. Donc j'espère que vos enfants, moi, vous arrivez à les conduire un petit peu dans cette direction-là. Pas pour les obliger à quoi que ce soit, simplement pour leur dire que le bonheur qu'ils vont y trouver, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent même pas, ils ne s'en rendent pas compte. C'est normal, on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est que de tomber dans l'univers d'un écrivain. On ne sait pas ça. Mais il faut trouver le déclic, il faut trouver la chose qui fait que ça démarre. Une fois que c'est parti, c'est bon.
Je voudrais parler style avant que nous finissions cet entretien. C'est possible ?
Ça va être dur, mais on peut essayer.
On va essayer. À partir d'une phrase qui m'a interpellé, c'est page 55. C'est le narrateur qui dit ça. « Je ne dis rien quand un homme me serre dans ses bras, mais ça ne va pas plus loin, ou quand il plaque une main sur mes fesses. » Alors, ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est qu'il y a une espèce de rupture de ton, et on voit le cours de la pensée, en fait. Et on a l'impression qu'en écrivant, vous avez suivi une pensée plutôt qu'obéi à un...
Là, on est dans le fin fond des cuisines.
Oui, oui, mais justement.
L'idée, c'est de faire penser ou sentir que ça a été écrit simplement et sans... Et c'est plutôt difficile, en fait. Je crois que aussi, celui qui m'a aidé pas mal à ce niveau-là, c'est Leonard Cohen, qui disait que des fois, il se roulait par terre pendant un mois pour trouver une rime à orange. Donc ça veut dire que c'est pas simple, que ça vient pas facilement, mais il faut que vous soyez votre critique le plus dur. Si vous avez après la chance de proposer ça aux autres, il faut que quand même vous leur donnez le meilleur de vous. Et c'est pour ça que j'écris jamais une phrase tant que je l'ai pas tournée un peu dans tous les sens et que quand je l'écris, elle est finie. C'est-à-dire que j'ai pensé que c'était la meilleure manière pour moi de transmettre un sentiment ou une pensée. J'ai trouvé que c'était le meilleur moyen, et là, je l'écris. Et je fais toujours pareil. C'est pour ça qu'à un moment, ils disaient, mais tiens, il ne corrige jamais ce gars-là, il est marrant, il n'y a pas de correction dans ses manuscrits. Non, parce que les corrections, elles se font dans ma tête avant. J'écris, enfin, quand ça va bien, j'écris une page par jour quand même. Je n'écris pas plus que ça, c'est difficile d'écrire. Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme ces types, hier, je voyais des courses dans le Grand Nord, ces types qui sont en traîneau et ils ont une quinzaine de chiens et chaque chien veut partir dans tous les sens et tout ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui tienne un peu tout ça. Donc, ce n'est pas facile. Vous pouvez renverser le chariot. Mais je crois qu'il faut aimer ça. Il faut être un amoureux de la langue pour un moment, vous consacrer simplement pendant une journée entière sur trois phrases, par exemple. Et en même temps, je dis ça pas du tout pour me faire plaindre. Au contraire, c'est génial. C'est ce que j'aime. Et peut-être que le résultat n'est pas à la hauteur des efforts que j'ai pu donner, mais ça va, c'est pas mon problème. Après, si c'est pas si bien que ce que j'aurais voulu éventuellement faire passer, parce que qu'est-ce que c'est écrire, qu'est-ce que c'est être un artiste en même temps, c'est avoir une émotion et elle passe par vous et vous la retransmettez. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est le passage. C'est de la même manière si vous filmez quelque chose, c'est où vous mettez la caméra. C'est l'angle qui compte, c'est le point de vue qui compte. C'est pas ce que vous filmez ou c'est pas vraiment. Enfin, c'est mon idée. Hein. C'est pas ce que vous racontez qui est intéressant. C'est comment vous le racontez. Moi, je trouve que aujourd'hui, ça devient un peu compliqué de trouver des histoires qui sont complètement comme ça, nouvelles. Non, ça ressemble toujours à quelque chose. Je veux dire, depuis Shakespeare, c'est compliqué de faire du neuf. Donc, c'est où on peut encore agir, c'est le point de vue où on se place, où on se met pour regarder quelque chose. Et soit on a une caméra dans les mains, soit on a la langue, soit on a un alphabet. Il faut se débrouiller pour faire cette espèce de petit pas de côté. C'est comme le voyage, ça. C'est se sentir en mobilité, se sentir en déplacement. Vous n'êtes pas assis dans votre fauteuil d'écrivain à écrire comme on vous a appris et comme, je ne sais pas, Angelo Rinaldi vous dirait, il faut écrire comme ça. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si vous avez un peu de respect et un peu d'amour pour la langue, bah vous ne faites pas ça. Vous mettez toute votre énergie et toutes vos possibilités d'écrivain au service de ce truc qui est complètement... c'est dans l'air, c'est comme ça, ça bouge. Donc il faut saisir les trucs, il faut arriver à les saisir et à les prendre. Mais peut-être que s'il y a un peu de beauté, elle peut passer que par là, à la fin, je crois.
Merci beaucoup, Philippe Djian. Merci à tous d'être venus ce soir. Chérie, chérie, c'est également.